Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de Diabète 66. Le podcast de Diabète 66, c'est le podcast hebdomadaire qui décrypte avec vous l'actualité sur le diabète. Ce podcast vous est présenté par l'équipe médicale du service endocrinologie du centre hospitalier de Perpignan, dirigé par le docteur Muriel Bénichou, accompagné par les docteurs Amina Radaoui, docteur Nelly Montignera et docteur Céline Hyde.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le docteur Nelly Montignera. Laissez-moi dérouler pour me présenter. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Camille Brial, qui est notre néphrologue et qui va co-animer cette émission avec moi aujourd'hui. Camille, bonjour. Et je suis très heureuse de te recevoir pour parler aujourd'hui de reins et diabète, les liaisons dangereuses. Camille est néphrologue, donc spécialiste du rein à l'hôpital de Perpignan. Donc les questions autour du rein seront posées à Camille directement, au docteur Brial. Donc nous aurons nous avons donc organisé ça en regardant effectivement les questions depuis cette semaine, toutes les questions que vous nous avez posées, et ensuite. Nous les avons récoltés par thématique. Alors nous avons comme ça pu mettre en évidence deux thèmes, rein et diabète, les liaisons dangereuses, et rein et alimentation. Donc on remercie encore nos internautes de jouer le jeu, d'être présents et toutes les semaines de nous apporter leur contribution. Oussine Boutera, Fatnassi Chokri et Kaina Rin ont posé des questions intéressantes autour de diabète et reins. Donc la première question pour Camille Brial, ce sera comment éviter la néphropathie diabétique et prolonger la survie des néphrons? Quel est le seuil de réabsorption du glucose, c'est-à-dire à quel moment le rein n'arrive plus à rattraper les glycémies? Et Fatna Choukri, elle dit comment arrive-t-on à l'atteinte des reins par le diabète? Donc, quelles sont en fait les différentes étapes qui nous mènent à la néphropathie diabétique, c'est-à-dire à la destruction du rein par le diabète? Et enfin, comment améliorer la présence de protéines alors qu'on est pris en charge, alors qu'on a tout le traitement nécessaire pour éviter cela, mais quand ça persiste, qu'est-ce qu'il faut faire? Et enfin, Krimi Ahmed nous dit: comment est-ce que je dois éviter une atteinte au niveau de mes reins quand je suis diabétique? Quelles sont les mesures que je dois mettre en place? Voilà. Donc, pour rappel, d'abord, qu'est-ce que c'est que la néphropathie diabétique? Comment est-ce qu'on peut préserver l'unité centrale de filtration du rein?
Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci Nelly, merci à toute l'équipe d'endocrinologie de l'hôpital de Perpignan de m'inviter aujourd'hui. Pour essayer de comprendre qu'est-ce que l'atteinte des reins par le diabète, il faut d'abord comprendre quel est le rôle du rein dans le corps. Donc le corps, pour fonctionner tous les jours, il fabrique un certain nombre de toxines. Et en fait, le rein, il a le rôle du filtre. Il va prendre le sang, il va en extraire les toxines et il va garder les bonnes protéines qui sont nécessaires en fait au fonctionnement du corps pendant la journée. Donc maintenant qu'on a compris à quoi sert le rein, comment le diabète va arriver à faire une atteinte au niveau du rein? Alors le diabète, vous le savez, c'est quand le sucre est trop élevé dans le sang, on appelle ça l'hyperglycémie. Ou si nous demander à quel niveau en fait le glucose va passer dans les urines. Donc on le sait que c'est à 1,8 g de glycémie, mais finalement l'important c'est pas ce seuil-là, c'est l'hyperglycémie en général. À partir du moment où on est diabétique et non équilibré, parce que quand on est équilibré, ça pose moins de problèmes, le sucre est trop élevé dans le sang. Donc le bon sucre, il est utilisé pour le fonctionnement du corps. Le sucre en surplus, il va être toxique pour les reins. Donc il va abîmer ce filtre. Le filtre, il ne va plus avoir la même fonction, c'est-à-dire qu'il va laisser passer, malheureusement, des protéines qui sont essentielles, au début à une quantité infime, ce qu'on appelle la microalbuminurie, Et puis au fur et à mesure, l'albuminurie augmente en macro-albuminurie, puis en protéinurie. Donc, finalement, la question, c'était comment je fais pour protéger mes reins si je suis diabétique. Donc, on comprend bien, vu le fonctionnement en fait, du sucre comme toxique sur le rein, qu'il va falloir en fait, essayer d'avoir le diabète le plus équilibré possible. Donc, pour avoir un diabète équilibré, je pense que mes consoeurs en ont déjà parlé avec vous, on prend bien les médicaments tous les jours de façon régulière. Le régime que vous connaissez bien, qui est, il faut faire attention au sucre, il faut faire de l'activité physique. On est en surpoids, il faut perdre du poids. Ce qui est très important aussi pour protéger votre rein, surtout quand on est diabétique, donc on a déjà un facteur de risque de faire une atteinte rénale. Si en plus on est hyper tendu, très important d'avoir une tension qui soit bien équilibrée. Alors bien équilibrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire inférieure à 130-85 mm de mercure. Souvent, on entend 13-8.
Oui, tout à fait.
Donc, soit chez le médecin traitant, soit lors d'une consultation avec votre diabétologue ou vous-même, si vous avez un appareil, de bien surveiller que cette tension, elle soit inférieure à 13-8. Si ce n'est pas le cas, il faut mettre en place le régime pauvre en sel très, très important et des médicaments à dose progressivement croissante. Et on peut rajouter un deuxième ou un troisième médicament si nécessaire. Donc la tension artérielle, il faut penser que ça va exercer une pression sur les tout petits vaisseaux au niveau du rein. Et donc ça va abîmer à nouveau le filtre. Donc très très important d'avoir une tension bien équilibrée. Un diabète bien équilibré.
Une tension bien équilibrée.
Oui, voilà. Donc finalement, comme je disais à Nelly quand on en parlait l'autre jour, moi, quand j'ai un patient qui vient me voir en consultation qui a une néphropathie diabétique, je finis mon courrier toujours de la même manière. S'il va bien, néphropathie diabétique, stable, avec un diabète bien équilibré, une tension bien équilibrée, une protéinurie soit absente, soit stable sous néphroprotecteur. Donc, j'en viens à vous parler du coup des néphroprotecteurs. Donc, c'est des médicaments...
Oui, parce que Kainarine disait « J'ai des médicaments qui protègent mon rein ». Mais ma protéinurie, elle continue d'exister, elle continue d'être positive. Alors, ce serait intéressant de leur parler un peu de ces médicaments qui protègent le rein et comment est-ce qu'on les agence pour finalement essayer d'obtenir un effet maximal sur la néphropathie diabétique.
Alors, les médicaments qui protègent le rein, donc on appelle médicaments néphroprotecteurs, c'est, vous allez entendre vos médecins parler d'IEC ou d'ARA2. Après, il y a toute une panoplie, tout un éventail de médicaments. Mais globalement, leur classe s'appelle les néphroprotecteurs, IEC ou ARA2. Ce sont des médicaments qui vont protéger le filtre rénal de ces atteintes du diabète. Ils vont aussi avoir un effet sur la tension. Donc c'est possible que vous ayez un de ces médicaments avant même d'avoir cette microalbuminurie dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire quand au tout début de la néphropathie diabétique, donc de l'atteinte rénale par le diabète, on a, comme on disait, une toute petite quantité de protéines qui passent à travers le filtre. Ça s'appelle la microalbuminurie. C'est là qu'il faut commencer ce genre de médicaments. Mais comme ce genre de médicaments sont aussi des médicaments qui baissent la tension, c'est possible que votre médecin l'ait commencé même avant.
Donc en résumé, les médicaments qui permettent de protéger le rein sont en fait des médicaments de l'hypertension artérielle. Et ils sont des catégories bien ciblées qui permettent de protéger le rein contre les effets délétères au long cours du diabète, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Et juste, je profite de cette vidéo pour vous mettre juste en un petit signal d'alerte pour ce genre de médicaments. Il y a un moment où c'est très important de les arrêter. Ce sont des très bons médicaments, très protecteurs pour le rein, mais ils peuvent avoir effet inverse, malheureusement, dans des situations de déshydratation. Donc c'est très important, si vous avez ce genre de médicament, d'être au courant de ça. Donc si vous vous retrouvez dans une situation de déshydratation, c'est-à-dire, on est en plein été, vous avez une gastro-entérite qui dure 3 jours, nausées, vomissements, diarrhée, vous n'arrivez pas à manger, là vous êtes en déshydratation. On peut aussi penser à un jeûne pour des raisons religieuses ou autres, qui se passe en été où il fait très chaud, on est dans un état de déshydratation, il faut absolument stopper ces médicaments.
La fièvre que, aussi, hein.
Oui, si on commence à perdre beaucoup d'eau et ne pas arriver en fait à se réhydrater suffisamment, ils vont avoir malheureusement un effet inverse parce qu'ils jouent sur la pression. Bon, pour des histoires un petit peu compliquées, mais il faut bien l'avoir en tête. Les quelques jours où je suis déshydratée, j'arrête ce médicament. Voilà.
Cette néphropathie diabétique, elle arrive à quel moment dans l'histoire du diabète? Quand est-ce que on doit se dire, il est temps pour moi maintenant de penser à mon rein et de peut-être prévoir un jour de venir voir le docteur Brial en consultation?
Alors, il y a deux, à mon avis, il faut penser en deux possibilités. Soit on découvre mon diabète au tout début, théoriquement, parce qu'on ne sait jamais depuis quand exactement il a le diabète, mais au tout début, on va dire, de l'évolution, et à ce moment-là, on peut se donner 5 ans avant qu'il y ait vraiment des risques de complications, et sauf si, en fait, le diabète est très déséquilibré, et à ce moment-là, on peut penser qu'il était peut-être là depuis un peu plus longtemps. Et là, il va falloir donc faire comme on fait un fond d'œil tous les ans quand on est diabétique, des Doppler pour regarder les artères. Il va falloir faire un examen qui est très simple. On regarde sur un échantillon d'urine la quantité d'albumine. On fait un rapport qui s'appelle le rapport albuminurie sur créatininurie. Et rien qu'avec ça, on peut détecter déjà les premiers signes de la maladie rénale. Donc c'est vraiment très facile. Pour être plus précis, on pourra faire après un prélèvement sur 24 heures d'urine et calculer la protéinurie ou l'albuminurie des 24 heures. Mais c'est vraiment très facile. Ça ne coûte pas grand-chose, donc pour le détecter, il faut bien y penser.
Les diabétiques ont toujours très peur de la dialyse. À quel moment il faut penser rentrer en dialyse? Quels sont les critères qui font que l'atteinte au niveau du rein nous oblige à aller vers la dialyse?
Alors, en fait, en insuffisance rénale, on parle en termes de stade. Donc l'insuffisance rénale au premier stade, c'est l'insuffisance rénale légère. Ensuite, il y a la modérée, puis il y a modérément sévère, sévère et terminale. C'est quand on est en insuffisance rénale terminale qu'on va avoir besoin de dialyse. Et là, ça va se ressentir sur différents critères. Mais en fait, l'idée, c'est de... En fait, je pense que ce qui est important, c'est de prévenir plutôt que de guérir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va voir qu'il y a cette atteinte du rein par le diabète, l'objectif, c'est d'essayer de stabiliser au maximum cette insuffisance rénale, donc en la protégeant, donc en protégeant le rein, en suivant bien les règles iododiététiques, en équilibrant bien le diabète, la tension, pour essayer d'avoir le plus stable possible. Une de nos internautes nous disait que malheureusement, elle prenait ses médicaments. Bon, on ne sait pas sur le reste si le diabète est équilibré, si elle fait bien les règles iododiététiques, mais ça peut arriver qu'on échappe malheureusement au traitement. Et à ce moment-là, en fait, on ne peut que bien surveiller, éviter les complications. Il faut jamais lâcher les règles iododiététiques, l'équilibre tension et équilibre diabète. Ça, c'est une grosse partie du travail déjà. Et puis, le détecter très tôt pour pouvoir lisser sur le long terme. En
fait. Donc, d'où l'importance de surveiller son rein tous les ans.
Voilà.
Alors, on va peut-être terminer cette rubrique sur rein et diabète avec une note positive. Le diabétique qui est insuffisant rénal, plus ou moins dialysé au stade terminal, est-ce qu'il a un espoir d'être greffé éventuellement?
Bien sûr, oui. Oui. Donc, l'insuffisance rénale terminale, elle a deux traitements, la dialyse ou la greffe. La greffe peut même être proposée en préemptif. Donc, on appelle préemptif quand on n'a même pas eu besoin de passer par l'étape dialyse et qu'on est directement greffé.
Ah, d'accord.
Mais effectivement, oui, voilà, on va essayer de... C'est tout à fait accessible.
Bon, ben voilà. Donc ensuite, on va répondre un peu à la question d'une jeune diabétique. Une question un peu spécifique qui nous a été posée par Fortune Tiki. Elle dit qu'elle est diabétique, qu'elle prend du glucophage, mais qu'elle continue à se lever la nuit plusieurs fois, jusqu'à 7 fois, pour uriner. Et elle se posait la question quels pouvaient être les médicaments qui pouvaient empêcher comme ça qu'elle aille uriner plusieurs fois. Et elle nous disait qu'elle était diabétique de type 1. Donc le fait d'avoir choisi Fortune, c'est parce qu'il y a deux écueils qui nous ont interpellés, Camille et moi.
c'est celui qu'elle dise qu'elle est diabétique de type 1, je ne pense pas. Madame Fortune Tiki, vous êtes diabétique de type 2 parce que le diabétique de type 1 est systématiquement insuliné. Vous, vous avez un traitement par glucophage, vous êtes probablement diabétique de type 2 et vous vous levez plusieurs fois dans la nuit. Moi, en ce qui me concerne, il est fort probable que votre diabète ne soit pas encore équilibré par glucophage. Donc vous avez toujours cette soif intense qui fait que vous urinez beaucoup. Et donc le principe, c'est d'aller regarder d'abord où en est votre équilibre glycémique et de savoir comment on peut, par plusieurs méthodes, soit par des mesures hygiéno-diététiques, l'activité physique, puis les médicaments, essayer d'aller vous équilibrer au mieux pour que vous ne puissiez plus vous lever plusieurs fois dans la nuit pour uriner. Maintenant, je ne sais pas si, peut-être Camille nous le dira, il y a une part d'atteinte du rein par le diabète qui pourrait expliquer ces sensations d'envie d'uriner. Je ne crois pas, mais bon.
Alors, moi, je partage ton avis. Je pense que le diabète déséquilibré induit une hyperglycémie un peu sur tout au long de la journée, et cette hyperglycémie qui donne très soif. Plus on boit, plus on fait pipi. Hein. Le corps, il est bien fait quand il n'y a pas de problème rénal vraiment important, c'est-à-dire une insuffisance rénale, même à ses débuts, ça ne va pas avoir d'impact sur le bilan d'eau. Je bois beaucoup, je fais beaucoup pipi. Donc, si le diabète est déséquilibré, c'est probablement la raison pour laquelle vous avez très soif, vous faites beaucoup pipi. Donc, en équilibrant votre diabète, les choses devraient s'améliorer. Après, dans l'insuffisance rénale, quand elle est à un stade vraiment beaucoup plus avancé, les patients ont tendance à avoir ce qu'on appelle la nicturie, c'est-à-dire de faire pipi la nuit. Mais bon, là, je ne pense pas qu'on soit dans le cas de...
Non, je ne pense pas non plus. Voilà, nous remercions nos internautes comme d'habitude. Nous allons continuer. La deuxième thématique que nous avons pu mettre en lumière dans les questions que vous nous avez posées durant la semaine est rein et alimentation. Et là, on va remercier Fatma Samou, Abda Omar et Hadj Soltani qui nous ont un peu posé certaines questions bien ciblées sur l'alimentation. Hein, Fatma se posait la question de savoir si elle consommait du jus de citron, même de manière un peu excessive, est-ce que ça pouvait entraîner des problèmes au niveau des reins? Ada Omar, lui, nous dit l'acide urique, son médecin traitant a trouvé qu'il avait un taux d'acide urique élevé. Alors il se pose la question, est-ce que cet acide urique peut attaquer ses reins? Et Hadj Soltani nous dit, quelles sont les précautions que je dois prendre au quotidien en tant que diabétique pour éviter que mes reins soient touchés par le diabète? Bon, on avait déjà un peu répondu. Oui, voilà.
Alors, donc la première question à propos du jus de citron. Donc le jus de citron, il n'y a pas de contre-indication particulière. Hein. Vous pouvez continuer, Fatma, il n'y a pas de souci. Peut-être que pour ouvrir un peu la question à tout le monde... on pourrait se poser la question de quelle quantité il faut boire. C'est ce qu'on demande toujours quand on dit « je suis néphrologue, ah moi je bois beaucoup d'eau pour protéger mes reins ». Alors la quantité d'eau à boire pour préserver les reins, comme je vous disais tout à l'heure, le corps est bien fait. Donc si vous êtes jeune, en pleine santé, vous aurez soif. Votre corps va vous donner le signal de la soif s'il trouve qu'il y a besoin d'un peu plus d'eau dans le corps. Donc il n'y aura pas de question à se poser, il faut boire à sa soif, tout simplement. Si vous commencez à être un petit peu plus âgé, que cette sensation de soif, vous voyez que vous l'avez un peu perdue. Il va falloir stimuler la boisson. L'idée, c'est que vos urines soient plutôt claires. C'est le même, c'est le même principe pour tout ce qui est calculs rénaux. Mmh. En fait, il faut s'hydrater au point que les urines, quand vous allez aux toilettes, soient claires comme de l'eau de roche. Qu'elle soit pas jaune foncé, sinon là ça va favoriser en fait la formation de calculs. Il y a quand même des petites exceptions, c'est-à-dire que si vous avez une insuffisance cardiaque, que vous avez une insuffisance rénale au stade sévère, là vous allez avoir des problèmes de ce qu'on appelle de la surcharge hydrosodée, donc vous retenez trop d'eau, donc votre médecin va vous indiquer de plutôt faire de la restriction hydrique. Mais ce sont des cas particuliers. Donc finalement, boire à sa soif, boire un peu plus s'il fait un petit peu plus chaud, qu'on transpire plus, qu'on a des vomissements ou des diarrhées, équilibrer un petit peu les choses. Et puis quand on est un petit peu plus âgé, voilà, surveiller un peu ses urines, que ce soit pas trop foncé. C'est ça l'idéal. que ce soit plutôt clair.
Et quelle alimentation un peu on va terminer peut-être sur ça, l'alimentation, le sel.
Qu'est-ce qui peut protéger au mieux vos reins? Bon, on y revient toujours, hein, c'est pas compliqué. Les règles de base que tout le monde connaît finalement, même les enfants. Faut pas manger trop salé. Ça permet d'avoir une tension équilibrée. Pas manger trop sucré, pas trop gras. Il faut faire de l'activité physique régulière. Si possible, ne pas fumer. Essayer d'avoir une alimentation bien équilibrée avec tout ce qu'il faut dans l'assiette. Éviter de manger trop de viande rouge. C'est toujours faire attention à l'excès finalement. Mm-hmm. Trop de charcuterie, trop de fromage. Voilà, avoir finalement les règles simples qu'on connaît pour être en bonne santé, et ben le rein, il a besoin qu'on le chouchoute pareil.
Très bien. Donc, dans le cadre du diabète, bien équilibrer son diabète, bien équilibrer sa tension, vont permettre comme ça de retarder au maximum la survenue de la néphropathie diabétique. Voilà, nous avons terminé un peu
peut-être
sur les...
l'acidurie qu'on
ah
a
oui,
pas
trop parlé. Ah oui, l'acidurie, très bien.
Alors, donc Ada, vous disiez, mon médecin dit que j'ai l'acide qui est haut. Donc, donc on a compris acide urique avec Nelly, je pense que c'est de ça dont vous parliez. Est-ce que ça peut attaquer mes reins? Alors, l'acide urique, quand il est élevé, bien sûr, il y a un risque qu'il cristallise en fait dans les tubules du rein et que ça crée un calcul. Le calcul, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire, in fine, des coliques néphrétiques. Donc, vous savez, ce qui est très douloureux, on a mal dans le dos et après, quand le calcul est expulsé, là, ça se soulage. Et en fait, on va avoir l'acide urique va être élevé, surtout chez les patients qui ont ce qu'on appelle un syndrome métabolique. C'est-à-dire qu'ils vont avoir du surpoids, de l'obésité, du diabète, de la tension, beaucoup de cholestérol. Et ce tout, on l'appelle le syndrome métabolique. Finalement, pour essayer d'améliorer les choses, il faut perdre du poids, manger pas trop salé, pas trop sucré, voilà tout ce qu'on a dit avant.
Toujours.
Et donc ça va éviter que la suite urique monte trop. Après, s'il est là, qu'il est trop élevé, les choses auxquelles il faut faire attention, la charcuterie, le fromage, il faut boire beaucoup pour que les urines soient claires, comme on disait tout à l'heure. Si vous êtes sûr que c'est de l'acide urique et que vous avez déjà fait des coliques néphrétiques, vous pouvez boire de l'eau de Vichy. Ça va alcaliniser vos urines. Ce sera bon pour les reins, sauf s'il y a une contre-indication type insuffisance cardiaque ou autre. Après, si vous ne savez pas la nature de votre calcul, finalement, ça ne sert à rien de boire de l'eau de Vichy. Le plus important, ce sera de boire de l'eau du robinet classique, que vos urines soient vraiment claires. C'est le plus important. Boire le soir aussi. C'est pendant la nuit que les urines se concentrent et que se forment les calculs. Donc, il faut boire le soir, quitte à se lever pour faire pipi. Tant pis, c'est pour éviter le calcul. Après, est-ce que ça peut atteindre mes reins de façon plus chronique? Oui, si en fait la colique néphrétique vient et revient et revient, elle va créer à chaque fois un bouchon dans le rein. Le rein, à chaque fois, il est obligé de forcer, il s'abîme, le filtre s'abîme. Et pareil, on en vient à l'insuffisance rénale. Donc c'est important toujours de prévenir, voilà, de prévenir tout ça.
Très bien. Ben nous vous remercions, nous remercions les internautes qui nous ont posé les questions cette semaine. Nous allons passer aux questions du direct. Zaya nous dit, les infections urinaires sont-elles en lien avec le diabète? Et Fatima, faut-il faire un dépistage systématique en absence de signes? Bon, pour Fatima, on a déjà répondu. Mais pour Zaya, oui, un déséquilibre glycémique peut favoriser, un diabète peut favoriser la survenue d'infections urinaires. Et les infections urinaires, elles vont aggraver, elles vont déséquilibrer le diabète. On va se retrouver dans le cercle du serpent qui se mord la queue. Je suis déséquilibré, je favorise les infections urinaires. J'ai des infections urinaires, ça déséquilibre mon diabète. Donc, il faut traiter les deux. Il faut traiter les deux, bien équilibrer le diabète et traiter l'infection urinaire pour casser ce cycle. Après, l'infection urinaire, Camille, est susceptible d'entraîner un problème rénal à la longue.
Alors, voilà, exactement. Comme on parlait tout à l'heure des calculs rénaux qui, en fait, en se répétant, vont finir par abîmer ce filtre rénal, les infections urinaires, c'est la même chose. Ça crée une inflammation au niveau des reins qui se répète, qui se répète, qui se répète. C'est comme si on faisait des plaies, des plaies, des plaies. Au bout d'un moment, il y a de la cicatrice. Cette cicatrice au niveau du filtre, elle fait que le filtre fonctionne moins bien et qu'on rentre en insuffisance rénale. Donc c'est très important, effectivement, d'essayer d'éviter les infections urinaires à répétition.
Alors, Camille, il y a une question de Jawed Souliman qui dit que lorsqu'on a une atteinte du rein avec une hypertension artérielle, qu'on a été traité par les médicaments qui protègent le rein, malgré le fait qu'on n'équilibre pas suffisamment, est-ce qu'on peut utiliser un diurétique ? Un diurétique, c'est cette catégorie de traitement qui force un peu sur la diurèse, qui force sur le fait d'uriner. Est-ce que ça peut être aussi une alternative pour améliorer la protéinurie, le problème de rein ?
Oui, bien sûr. Alors, dans la prise en charge de l'hypertension, on va commencer par, comme un peu dans le diabète, s'il n'est pas trop sévère, on commence toujours par des règles hygiéno-diététiques. Donc on va dire, essayez de manger moins de sel, on se revoit, on reprend la tension. Si elle est toujours élevée, on va commencer à mettre en place un premier antihypertenseur. Donc, par exemple, un patient qui a une petite néphropathie sous-jacente ou un diabète, on va se dire un IEC ou un ARA2, c'est un néphroprotecteur, je vais commencer par ça, c'est très bien. On va monter progressivement. Ensuite, si avec une pleine dose du médicament, ça ne suffit pas, on va ajouter là-dessus un autre médicament. Alors, ça pourrait être un bêta-bloquant qui joue sur le cœur, ça pourrait être un diurétique thiazidique qui joue sur la diurèse et sur jeter un peu de sel. Mais c'est plus facile, finalement, pensez-y, de moins manger de sel que de demander à votre rein, qui est déjà peut-être un peu fatigué, d'aller faire pipi plus de sel. Si vous lui en apportez moins, déjà, ce sera plus facile pour lui de gérer un peu la balance au niveau rénal.
Très bien. Noureddine nous dit, chez l'enfant, est-ce qu'on a la même conduite à tenir chez le diabétique enfant qui commence à abîmer ses reins?
Tout à fait, c'est exactement pareil. Chez l'enfant, c'est très important pour tout le monde. Il faut, à partir du moment où on a un diabète, on sait que le diabète malheureusement atteint différents organes. Tous ces organes, il faut les avoir bien en ligne de mire et le rein en fait partie. Et chez l'enfant comme chez l'adulte, il va falloir surveiller avec des choses qui sont finalement très simples, hein, comme on l'a dit, hein. Un échantillon d'urine. Déjà, on est au courant de pas mal de choses. C'est quelque chose qui peut se répéter de façon facile chez l'enfant. En plus, ce n'est pas une prise de sang. Juste un petit examen d'urine et on sait où on en est. On commence les médicaments, on surveille. Voilà, c'est très important.
Alors, juste pour continuer dans cette lignée, Sana, Doc Sana nous dit, quelle est la valeur, elle doit être médecin, elle nous dit, quelle est la valeur de microalbuminurie qui doit alerter le médecin pour commencer à initier le traitement?
Alors, du coup, en termes de ratio albuminurie sur créatininurie, on va être en unité, en milligrammes. C'est très important de regarder les unités parce qu'on peut s'y perdre. Sinon. En milligrammes par millimol, entre 3 et 30, on va être pour ce qu'on appelle la microalbuminurie. Au-dessus de 30, on passe dans la macroalbuminurie. Donc, dès 3 mg par millimol, on est dans la microalbuminurie. Il est justifié d'introduire un néphroprotecteur. Si vous le regardez sur 24 heures, la microalbuminurie commence à 30 mg. Voilà, il faut juste connaître les unités. Mais vous retrouverez, si c'est une question d'une consoeur médecin généraliste, je peux vous conseiller d'aller voir. On y a un tableau qui est très bien fait. Des recommandations internationales qui s'appelle CADIGO 2000, c'est celui de 2012. Et donc, les insuffisances rénales sont classées et ils conseillent à partir de quelle albuminurie ou quelle insuffisance rénale il faut envoyer vers un néphrologue. Donc, c'est très bien ça pour nos confrères et nos consoeurs de médecine générale.
Voilà. Donc, nous arrivons bientôt au terme de notre échange, hein, avec nos internautes. Donc, nous essayons un peu de regarder si nous n'avons pas oublié l'une ou l'autre question.
Le diabète
gestationnel a-t-il un impact sur le rein? C'est Bridale qui nous le pose.
Alors, le diabète gestationnel, il ne va pas avoir un impact direct sur le rein, mais sauf si tu me corriges si je me trompe, le diabète gestationnel, c'est un facteur de risque de faire un diabète de type 2 plus tard.
Oui,
donc là, en l'occurrence, vous êtes du coup à risque d'avoir un diabète, donc à risque d'avoir une néphropathie diabétique. Mais sur le moment, il n'y a pas de souci.
Voilà. Donc, diabète et reins, les liaisons dangereuses. Nous avons vu dans quelle mesure Camille et moi sommes obligés d'être de bons compagnons de chemin pour les patients diabétiques. Voilà, je vais laisser Camille, notre invitée de cette semaine, conclure pour essayer de vous donner vraiment les canevas, les éléments importants pour que ce soit bien clair dans les esprits de tous. Quand est-ce que le rein participe? Comment il faut le gérer? Et moi, je vous dis déjà à la semaine prochaine. Et Camille, si ça te dérange.
Rein et diabète, liaison dangereuse, je suis tout à fait d'accord avec ce titre. Donc, moi, avant tout, ce que j'aimerais que vous rameniez comme message clé, c'est faire attention à sa maladie. Donc, être conscient de quand est-ce qu'il faut que vous alertiez au niveau des glycémies, de l'HbA1c que vous faites régulièrement, prescrite par votre médecin traitant ou votre diabétologue, de pouvoir, vous, aller chercher le médecin si vous voyez que les chiffres ne sont pas dans les clés. Il faut que les choses viennent de vous, que vous compreniez votre maladie. Comme ça, votre diabète sera le plus équilibré possible. Et en étant équilibré, eh ben, le diabète, si vous l'équilibrez bien, eh ben, la néphropathie diabétique, elle arrivera beaucoup plus tard. D'accord ? Donc, ce que je voudrais aussi vous dire, c'est retenez les choses simples. C'est pas la peine de penser à des trucs rocambolesques. Il faut faire attention à sa santé de façon simple. Activité physique, pas trop salé, pas trop sucré, pas trop gras. Voilà, ça c'est l'essentiel. Si vous faites ça déjà, vous aurez fait beaucoup.
Et ne pas oublier de bien prendre votre traitement. Vous êtes diabétique, donc prenez bien votre traitement. Faites attention à ne pas oublier d'être bien suivi. Le suivi est d'autant plus important que le diabète ne vous parlera jamais. Le diabète ne vous annoncera jamais les soucis. Donc, il est judicieux qu'on aille les chercher au fur et à mesure, année par année, au fur et à mesure que vous évoluez dans cette maladie. Nous vous remercions d'avoir participé à cet échange des vendredis. Et nous remercions aussi Camille d'avoir répondu présente à cette invitation et de nous avoir édifiés sur le rein et le diabète, les liaisons dangereuses. Nous vous disons, elle et moi, à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Nous sommes ravis de vous avoir accompagnés pendant toute cette écoute. Si ce podcast vous a plu, merci de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Suivez-nous sur notre page Facebook Diabète 66 en posant directement vos questions qui seront abordées dans nos prochaines émissions. Rejoignez-nous également sur notre groupe Facebook Diabétique, le groupe de discussion, pour échanger avec nos 9000 membres. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter. Merci à toutes et tous pour votre écoute et à la semaine prochaine.